Je ne sais pas si vous suivez avec assiduité la campagne présidentielle qui fait rage, alors que c'est la période décisive hein, où les candidats redoublent d'ingéniosité pour trouver l'idée qui va les faire sortir du lot, pour montrer qu'ils sont l'homme ou la femme de la situation, celui qui va sortir le pays de la crise, trouver la solution à la pauvreté, à l'injustice sociale. Je me demande ce qu'ils penseraient de ce passage dans le livre des Actes, que nous trouvons dans le chapitre 4, les versets 32 à 35. Je vous invite à prendre vos Bibles maintenant. Nous suivons depuis quelques semaines maintenant des messages sur le livre des Actes, et nous en arrivons à ce passage, en acte 4, versets 32 à 35. On va lire ces passages, et en fait c'est le passage suivant qui va nous prendre le plus grand temps ce matin. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, aucun pauvre. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Alors oui, l'offrande, c'est nous en premier, mais en tout cas, dans ce passage-là, ça a été radical dans les biens matériels. Hein. Ils vendaient leurs biens et les apportaient pour mettre tout en commun. Marx, Lénine, Trotsky n'ont qu'à bien se tenir, ce qu'ils ont essayé de faire dans leur pays et n'ont jamais réussi à faire, sans aucune idéologie. Ça s'est fait au 1er siècle de notre ère, à Jérusalem, dans une communauté d'environ 5000 âmes. Pourquoi ? Parce que le cœur de l'homme avait changé. L'église de Jérusalem, une église qui fait envie, hein. Les cœurs ont changé, les hommes ont changé, la façon de se comporter aussi. Ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Il n'y avait parmi eux aucun pauvre, car tous les biens étaient redistribués selon leurs besoins. C'est étonnant les effets de la parole de Dieu hein, dans une vie. N'avoir qu'un cœur et qu'une âme entre eux. Je ne sais pas pour vous, mais moi cette expression me fait envie, hein. Plaise à Dieu que nous puissions vivre cela dans notre assemblée. Alors, comme je vous ai dit, je ne vais pas m'arrêter longuement sur ces versets. Le texte qui nous intéresse, c'est celui qui vient juste après. Je voulais juste présenter ces quelques versets parce qu'ils nous donnent le contexte du drame d'Ananias et Saphira que nous allons lire dans quelques instants. Mais quand même, ce petit bijou retient notre attention. Qu'est-ce que nous devons en faire 2000 ans plus tard? Est-ce que dans l'Église, on s'est trompé de modèle? Est-ce qu'on a raté l'essentiel? C'est ça qu'il faudrait vivre. Juste quelques remarques. Alors, avant de culpabiliser ou de nous dire dans notre rationalité bien occidentale ce n'est pas possible de vivre ça aujourd'hui, réjouissons-nous de l'œuvre de l'Esprit du Seigneur dans le cœur de ces hommes et de ces femmes. Réjouissons-nous de ce que ça l'a fait dans leur vie. Luc nous fait le rapport dans le livre des Actes de ce qu'est l'Église primitive. Ça, c'est ma deuxième remarque, mais il ne nous dit pas que c'est ça que nous devons faire. Ce n'est pas une recommandation, c'est un constat. La troisième remarque, c'est que si ça a pu se passer à Jérusalem, c'est parce que c'était un élan commun qui a animé les chrétiens. Nulle part, il n'est question d'obligation. Notre problème, hein, c'est souvent qu'on fait des lois pour essayer de faire tendre le cœur à quelque chose. C'est le contraire qui devrait se passer, c'est que c'est le cœur qui a envie de quelque chose. C'est pour ça que les choses vont changer. Nul n'avait l'obligation de s'y tenir. Et l'épisode d'Ananias et Saphira que nous allons voir après nous le rappelle d'une certaine manière. Quatrième remarque. On ne retrouve plus ce modèle dans la suite du Nouveau Testament. On trouve au contraire Paul qui exhorte les frères et les sœurs à participer des collectes en faveur des pauvres. Et où ils étaient ces pauvres? À Jérusalem. Ça a été un temps comme ça. Ça n'a pas été pendant beaucoup d'années, en fait, hein, même dans l'Église primitive. Et enfin, la dernière remarque qui peut-être éclaire tout ça, très certainement, les chrétiens du premier siècle de notre ère pensaient que le retour du Christ était imminent. Nous pensons que le retour du Christ est imminent. Oui, mais eux pensaient dans le sens qu'ils devaient adopter un mode de vie à court terme. Christ, c'est sûr, va revenir dans le mois, l'année qui vient. C'est comme ça qu'ils avaient compris les promesses de Jésus. Ce n'est qu'au fil du temps qu'ils ont compris que l'imminence du retour du Christ signifiait se tenir prêt à tout moment, et non pas que c'était une promesse qu'il allait le faire d'une façon temporelle dans l'année qui vient. Et d'ailleurs, cela fait 2000 ans que ça dure, mais le retour du Christ est toujours imminent. Alors ce passage, ça n'est pas une invitation à vendre tout ce que nous possédons. Ce n'est pas non plus le code d'un bon chrétien. Par contre, ça nous rappelle quelle différence fait la foi dans notre façon de voir la solidarité. Ça nous pose forcément des questions. Est-ce que la gestion de mes biens personnels est le reflet de ma foi? Est-ce que je suis cohérent entre ce que je confesse et là où j'agis avec ce que Dieu m'a donné? Et ça, personne ne peut répondre à votre place. Hein. C'est entre le chrétien et Dieu. Mais forcément, ça fait écho à ces autres versets. Hein. On trouve dans la Bible, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Là où est notre trésor est aussi notre cœur. Les premiers chrétiens vécurent ces bénédictions, si je puis m'exprimer ainsi, au pied de la lettre. Et nous sommes appelés à les vivre, nous aussi, à la manière dont Dieu nous le montre. Les premiers chrétiens ne passèrent pas à côté de la bénédiction de vivre cette communauté. Ils la vécurent jusque dans leur bien matériel. Voilà, c'est donc dans ce contexte qu'intervient notre texte de ce matin, Ananias et Saphira. Et je vais continuer la lecture donc à partir du verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », Lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme, nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étaient enlevés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ?» Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Alors le chapitre 4 termine donc sur la vente du champ par Barnabas, qui fait la même chose que les autres chrétiens, finalement. Et le chapitre 5 commence par un « mais », comme pour souligner que même dans l'Église primitive, le paradis n'était pas encore complètement descendu sur terre, qu'il se passait encore des choses qui ne devrait pas se passer. Alors, prenons un peu de recul par rapport à ce qui s'est réellement passé avec Ananias et Saphira, parce que quand on lit ce texte, il y a une certaine émotion qui monte en nous. Hein, on se sent un peu peut-être pris à notre propre piège, je ne sais pas comment l'exprimer, mais ça bouillonne en nous. Hein. Alors examinons les faits. Ananias et Saphira ont un champ. Ils le vendent, ils s'accordent ensemble pour ne donner qu'une partie du prix. Mais ils s'accordent aussi ensemble pour faire croire qu'ils ont donné tout aux apôtres. Pierre discerne miraculeusement la situation. Il ne nous est pas dit comment il fait pour le discerner. Toujours est-il qu'il discerne, il sait. Et après avoir mis Ananias devant le fait accompli, après l'avoir accusé, il se trouve que Ananias tombe mort devant lui. Dans le premier cas, Pierre ne dit pas « parce que tu as fait ça, tu vas mourir hein. ». Il accuse et met Ananias devant sa propre responsabilité, et Ananias meurt. Arrive sa femme, Saphira, qui ne sait pas ce qui s'est passé, et elle confirme par ses propos, quelque part, que les deux s'étaient bel et bien accordés pour tromper les apôtres. Pierre est à nouveau au bénéfice d'une connaissance, mais cette fois-ci, c'est de ce qui va se passer. Il sait que parce qu'il est arrivé à ça à Ananias, il va arriver la même chose à Saphira. Et il lui dit, eh bien, ceux qui ont enterré ton mari sont à ta porte. Et Saphira meurt à son tour. Alors, il faut bien noter ce qui est reproché à Ananias et Saphira. C'est d'avoir menti. Ils ont menti aux apôtres, ils ont menti à l'Église, et en faisant ça, ils ont donc menti au Saint-Esprit et à Dieu. Hein. Pierre fait le lien. Ce n'est pas à des hommes que vous avez menti. C'est au Saint-Esprit. Il est reproché à ce groupe de s'être accordé pour avoir tenté l'Esprit du Seigneur. Vous avez ça, verset 9. Le problème, ça n'est pas que Saphira et Ananias ont retenu une partie du prix du champ. Pierre le dit clairement à Ananias. Est-ce que tu n'avais pas la somme à ta disposition? Est-ce que tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais de l'argent que tu avais gagné de la vente de ce champ? Tu pouvais très bien ne nous en donner qu'une partie. Le problème n'est pas là, ce n'est pas un problème de générosité. Le problème, c'est le mensonge. Et notons bien de quel mensonge il s'agit dans notre passage. Celui de se faire passer pour plus beau que l'on est, en quelque sorte. Pourtant, Ananias et Saphira avaient accompli une bonne action. Ils ont donné de l'argent aux pauvres. Je ne sais pas si on est très nombreux dans cette salle à avoir vendu un bien que l'on avait pour finalement en faire don aux pauvres ou à l'Église. Hein. Ça part quand même d'un geste qui dépasse bien souvent notre générosité. Et Ananias et Saphira, pourtant, l'ont fait. Et moi, je dois avouer qu'au niveau de la générosité, quand j'ai des biens, de l'argent qui rentre de façon inattendue, je me comporte comme Ananias. Hein. Souvent, j'en prends une partie pour ma famille et j'en consacre une partie à l'œuvre de Dieu. Mais je vais rarement dire Seigneur, moi j'ai pas besoin d'argent, je te donne tout. Enfin, je pense que c'est une attitude, j'espère que vous ne me jetterez pas la pierre en m'entendant dire ça, qui est tout à fait humaine. Et oui, on se rend compte qu'on a des besoins, on n'est pas dans un monde sans besoin, et cet argent, Dieu nous le donne aussi pour assouvir nos besoins. Le problème, c'est qu'Ananias, Saphira, eux, ont voulu faire croire qu'ils étaient plus généreux, qu'ils avaient été plus généreux qu'en fait, que dans la réalité. Ils avaient accompli une bonne action, mais ils l'ont transformée en péché. Vous vous rappelez cette vérité, hein ? Si je fais quelque chose de bien, mais pour une mauvaise motivation, j'agis mal, en fait. Et ce passage en est la parfaite démonstration, hein ? Alors qu'il y avait un élan de générosité, ça s'est transformé en péché tragique pour Ananias et Saphira. Pourquoi ils ont fait ça? Le texte ne nous le dit pas. Hein. Très certainement, en voyant les autres vendre leurs biens, ils se sont dit qu'il fallait faire pareil, ils voulaient les imiter. Malheureusement, leur cœur à eux était plus réticent à une totale générosité. Mais ils ont voulu préserver les apparences. Rappelons-nous hein, que le mensonge, ça n'est que l'expression visible d'un problème enfui, d'un problème plus profond. Quelque chose a poussé Ananias et Saphira à mentir. Mais ça, c'est uniquement l'alarme, hein, le petit voyant rouge qui clignote. Quand on ment, on doit se dire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien en nous. Et c'est souvent ce quelque chose qui ne fonctionne pas bien en nous qu'il nous faut combattre. Le texte ne nous dit pas, est-ce que c'était par peur du jugement des autres? Est-ce que c'était pour épater la galerie? Est-ce que c'était dans le but de se conformer à ce code du bon chrétien qu'ils avaient peut-être imaginé? En tout cas, rappelons-nous qu'il y a un problème profond souvent hein, derrière notre aptitude à mentir, à ne pas dire la vérité. Il y a quelque chose qui est là derrière, et c'est ça qu'il nous faut discerner pour pouvoir enlever le mensonge de notre vie. On ne va pas juste pouvoir enlever le mensonge de notre vie avec des bonnes résolutions, je ne mentirai plus. Il nous faut discerner qu'est-ce qui nous amène à mentir. L'orgueil spirituel, hein, dans ce cas, en quelque sorte. La volonté de pouvoir, on va flatter quelqu'un, peut-être, pour essayer d'avoir un poste meilleur. La flatterie est un mensonge. Et c'est ça qui est derrière, qu'il nous faut pointer. Alors, ce qui nous rend nerveux en lisant cette histoire, c'est qu'il y a un peu d'Ananias et Saphira en chacun d'entre nous, n'est-ce pas ? Tirer la couverture à soi, s'approprier une gloire qui n'est pas la nôtre, ce ne sont pas des motivations qui nous sont totalement étrangères. Est-ce que nous recherchons à maquiller les apparences dans notre travail, dans notre famille, dans l'Église ? Si c'est le cas, le danger est grand. Parce que la première victime, c'est nous. En essayant de nous valoriser, on finit par se mentir à soi-même, par endormir notre conscience, par nous aveugler. Et en nous valorisant, on oublie que c'est en Dieu qu'est la solution. Une façon simple de s'éloigner de Dieu, c'est de nous voir plus beaux que l'on est. Parce que du coup, on n'a plus besoin de Dieu. C'est en voyant clair sur nous-mêmes que nous nous rendons compte du besoin profond de Dieu en nous. Mais s'il y a un peu d'Ananias et Saphira en chacun de nous, forcément, la suite s'avère un peu difficile à digérer. Qui n'a jamais menti dans la salle ? C'est pas le premier mensonge que vous savez. Qui est déjà tombé rêve mort après un mensonge ? Je pense personne, hein, si vous ne savez pas là. Alors pourquoi une telle radicalité dans le jugement sur Ananias et Saphira ? Oui, l'orgueil, l'hypocrisie, c'est pas bien, ok. Mais à nos yeux humains, il se passe des tas de choses pas bien, hein. Des tas de choses bien plus graves à nos yeux humains que le mensonge d'Ananias et Saphira. Pourquoi ont-ils subi une telle sentence ? Pourquoi eux et pas les autres ? Et pas nous, oserais-je dire. Il y a une sorte d'exemplarité dans ce texte qui nous fait frémir. Mais c'est pas le premier cas, en fait, dans la Bible. Est-ce que vous avez en tête d'autres exemples de jugement radical alors que la situation, franchement, à nos yeux, à nous, ne nous semblait pas si grave que ça ? Oui, Olivier, il y en a d'autres ?
Le rejet de Saül.
Rejet de Saül, hein, ouais, bon, il fait un sacrifice. Alors, c'était pas lui de le faire, c'était au prêtre de le faire, mais bon, il était dans une telle situation quand même, le prêtre n'était pas là. Donc, en effet. Il y en a d'autres ? Moi, j'avais en tête.
Les enfants de Pharaon.
D'Aaron, ouais. Nadab et Abihu. Parce que c'est le nom de l'histoire, grand-chose. Vous avez leur histoire dans Lévitique, au chapitre 10. Nadab et Abihu sont les fils d'Aaron. Ils aidaient leur père à brûler les sacrifices sur l'autel. Mais un jour, ils ont apporté un sacrifice, des braises, pardon, qui n'étaient pas saintes. Ils avaient pris des braises en dehors de l'autel. Waouh! Mais en amenant des braises non saintes, voilà ce que Dieu a fait. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et le consuma. Il mourut devant l'Éternel. Lévitique 10. Un autre homme aussi a subi une colère de l'Éternel étonnante. Uzza. Uzza, c'était un serviteur de David. C'est lui qui conduisait le char, qui emmenait le tabernacle à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Les bœufs, s'ils avaient trop bu ou quoi, mais en tout cas faisaient pencher le char. Et il semblait que le tabernacle allait tomber. Et Uzza a mis la main pour retenir l'arche de l'Alliance. Mais Uzza n'était pas lévite. Selon la loi juive, il n'avait pas le droit de poser ses mains sur l'arche de l'Alliance. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. 2 Samuel 6, 7. Effrayant, hein ? Dieu avait donné des ordres à cause de sa sainteté. C'est pour ça hein, qu'il y a ces ordres dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que Saül n'avait pas le droit de sacrifier. C'était au prêtre de le faire. Il ne fallait pas mélanger l'ordre politique et l'ordre religieux. C'est pour ça qu'il y avait des hommes bien particuliers qui avaient le droit de toucher ce qui était pour le culte de Dieu, les Lévites. C'est pour ça qu'il fallait bien différencier ce qui était saint de ce qui n'était pas. Ces ordres nous rappellent en quelque sorte qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu comme ça. Dieu, ce n'est pas notre pote. C'est le tout autre. Dieu est saint et nous sommes pécheurs. Nous devons nous remettre à Dieu pour avoir accès à lui. Et la sainteté de Dieu doit nous pousser à le craindre. D'ailleurs, dans ce passage, le résultat, c'est la crainte. Vous l'avez au verset 5, vous l'avez au verset 11. Après que les deux individus en question s'affalent, la crainte s'empare de ceux qui sont témoins de la scène. Ok, vous allez me dire, mais alors pourquoi Dieu ne s'y prend pas systématiquement comme ça? Il y a plein de choses dans la Bible qui sont graves et qui ne provoquent pas la mort. Le serviteur de David, Uzza, a mis la main sur l'arche, mais David lui-même, il a prémédité un meurtre. Et Dieu ne l'a pourtant pas fait mourir sur place à titre d'exemplarité. Nous devons reconnaître que la façon de Dieu d'agir n'est pas linéaire. À plusieurs reprises, à cause de sa sainteté, Dieu s'en prend d'une manière toute particulière avec certains hommes ou avec certaines femmes, mais ce n'est pas systématique. Alors, pourquoi une exemplarité dans certains cas et pas dans d'autres? Ce n'est pas simple de répondre. En tout cas, il y a des choses qu'on peut remarquer. C'est que les épisodes dont je vous ai parlé se passent à des moments bien particuliers. À quel moment a lieu l'histoire de Nadab et Abihu? Tout de suite après l'instauration des sacrificateurs. Hein. Le premier sacrificateur, c'est Aaron. Et Nadab et Abihu aident Aaron dans son service. Quel était le rôle des sacrificateurs? Ils brûlaient les sacrifices sur l'autel pour le pardon des péchés du peuple, pour apaiser la colère de Dieu. Hein, il faisait monter une agréable odeur pour que Dieu détourne sa colère du péché de son peuple. Alors quel était le danger? Le danger, c'est que le peuple de Dieu pouvait en venir à sous-estimer la sainteté de Dieu. Ah, Dieu nous donne une façon de régler le péché, il suffit d'amener un sacrifice sur l'autel et les choses sont réglées. Se permettre quelques compromissions avec le péché, puisque nous avons la solution. Le danger, c'était que le peuple sous-estime la sainteté de Dieu. Qu'en est-il pour Uzza? À quel moment ça a lieu, cet épisode? Ça a lieu au moment où David vient de unifier le pays. Sa royauté est renforcée, il a conquis Jérusalem et il en fait sa capitale politique et religieuse. Ça veut dire que le peuple d'Israël, qui était un peuple un peu à part jusque-là, devient un peuple finalement comme les autres, avec sa propre nation, son propre État, son propre pouvoir. Quel est le danger dans ces cas-là? Eh bien, c'est de devenir comme les autres peuples, de compter sur l'État pour régler les problèmes, d'oublier que si les choses se sont passées comme ça, c'est parce que Dieu les a conduits. C'est l'oubli de l'Éternel. Et d'ailleurs, toute l'histoire du peuple juif nous montre que cela va conduire petit à petit le peuple d'Israël d'oublier les commandements de Dieu. Alors, ok, et Ananias et Saphira, est-ce qu'on en est à un moment particulier de l'histoire du salut? Et que oui, hein. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ben, l'Église vient de naître. Sur quoi est fondée l'Église? Sur le sacrifice de Jésus-Christ. Désormais, l'homme n'est plus déclaré pécheur, parce que Dieu a donné la solution. Jésus est mort pour nos péchés. On l'a vécu là, tout à l'heure, à travers la scène, on s'en verra plus. Dieu nous voit désormais comme saints. Enfin, on est saints, c'est que lui décide de nous voir comme tels. Parce qu'il a payé le prix. C'est génial, c'est formidable. Mais c'est risqué. Parce que l'homme est l'homme. Parce que l'homme déforme les bénédictions de Dieu. Parce que l'homme risque de domestiquer la grâce. Et de se dire, ok, le péché est pardonné à la croix, c'est que le péché n'est pas si grave que ça. Je peux pécher, et je demanderai à Dieu pardon ensuite. Le risque, c'est de voir la grâce comme un passeport pour le péché. Cette histoire peut-être de ce petit garçon entêté nous aide à la comprendre. Hein? Le petit garçon était terriblement entêté, il se mettait dans des colères folles. Et son père en avait par-dessus la tête de ses colères, et il voulait qu'il comprenne qu'on ne peut pas se comporter ainsi. Alors un jour, il le prend par la main, il l'emmène au fond du jardin, il lui monte la palissade et lui dit « À chaque fois que tu te mets en colère, désormais, tu viendras avec un coup que tu planteras dans la palissade. » L'enfant accepte. Et au bout de quelques jours, il y a une tonne de coups sur la palissade. Et là, l'enfant, il se rend compte hein, que c'est souvent qu'il se met en colère. Il est horrifié de voir autant de coups dans la palissade. Alors son père lui dit, tu vois, il faut que tu apprennes à te maîtriser, te dominer. Si tu arrives maintenant à ne plus sortir de tes gonds pendant toute une journée, tu auras le droit de venir prendre un coup et de le retirer. Toute une journée, c'est long, hein, mais bon. L'enfant accepta. Au début, il eut beaucoup de mal. Et puis il persévéra. Et il commença à pouvoir enlever son premier coup. Et puis après, il enleva les autres. Et il a réussi comme ça jusqu'au dernier. Et il vint voir son père en lui disant « Papa, viens voir! Il n'y a plus de coups sur la palissade !» Et il était content, hein. J'arrive à ne plus me mettre en colère. Le père accompagna son fils au fond du jardin, regarda la palissade, puis lui dit d'un ton grave « C'est bien, mon garçon, tu as enlevé tous les coups, mais regarde la palissade. Il y a plein de trous. » La même chose avec notre péché. Notre péché provoque des troubles, des blessures. Oui, Dieu décide de pardonner, mais les conséquences de notre péché, elles sont bel et bien là. Il est important de comprendre que la grâce n'est pas la parité du péché. Il y a un passage comme Ananias et Saphira dans la Bible, après le sacrifice de Jésus-Christ, nous rappelle que Dieu est toujours saint. Dieu a toujours en horreur le péché. Et que nous devrions craindre parce que nous sommes pécheurs. Croire que la grâce est un passeport pour le péché, en fait, c'est passer à côté de la grâce. Parce que la grâce, c'est le remède qui doit nous dégoûter, nous aussi, du péché. Ok, on avance. Il y avait une urgence de rappeler que la grâce n'enlevait pas la sainteté de Dieu. Quand même, il y a une impression d'injustice. Pourquoi Ananias et Saphira? Ils étaient juste là au mauvais moment, au mauvais endroit. Ils ont payé pour tous les autres. Ça nous embête ce passage. Hein. Ils ne sont pas plus coupables que les autres et pourtant ils donnent l'impression de payer plus que les autres. Ok, c'était le début de l'Église. Mais... Alors s'ils avaient été nés 30 ans après, ils ne seraient pas morts pour leur mensonge. S'ils étaient dans l'Église d'Esbly au XXIe siècle, ils auraient pu mentir comme ça et ne pas tomber raide mort. Il reste quand même un problème, hein. La question là derrière, c'est la justice de Dieu. Parce qu'il y a bien plus grave hein, que ça. Il y a des gens qui commettent des choses bien plus atroces qu'Ananias et Saphira, qui ne meurent pas. Il y a des gens qui nous semblent des gens bien mieux qu'Ananias et Saphira et qui décèdent. On a du mal à comprendre les raisons de Dieu, hein. Et puis on ne va pas les comprendre complètement ce matin non plus, je vous rassure. Cependant, je pense qu'on a besoin de lever les yeux et de regarder un peu plus loin. Depuis que le péché est entré dans le monde, la mort attend tout le monde. La mort, c'est la conséquence de notre péché. C'est ce que nous dit la Bible, hein. C'est parce que le péché est entré dans le monde que désormais l'homme doit mourir. Que ce soit directement et subitement à cause d'un péché comme Ananias et Saphira, ou indirectement, comme la plupart des autres hommes, qui sont sur cette terre. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui, parce qu'ils ont fait un péché, meurent tout de suite, direct. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il le dit, hein. Allez, ça dans l'épître aux Romains. C'est la règle spirituelle qui soutient notre monde. Et il arrive que Dieu anticipe son jugement. C'est le cas lors du déluge. C'est le cas pour Abidal. Nadab, qui a dit, c'est le cas pour Uzza, c'est le cas pour Ananias et Saphira. La Bible nous rappelle que celui qui pêche est séparé de Dieu. Et c'est cela que Dieu veut régler. Le but de Dieu, ce n'est pas d'établir une certaine justice devant la mort terrestre. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous vivons tranquillement notre vie sur terre et que nous mourrons paisiblement dans une belle vieillesse. Le but de Dieu, c'est que nous soyons réconciliés avec lui. C'est que le péché soit vaincu. Et si ça doit passer par des choses que nous, nous jugeons dramatiques, et bien Dieu considère que le but de Dieu, son but, le salut, et dépasse tout ça. Alors je ne dis pas qu'une mort justifie que vous demanderez à Dieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, on doit se rappeler que son but, ça n'est pas que nous soyons égaux devant la mort terrestre, c'est que nous soyons égaux devant le salut. Nous sommes égaux devant le salut. Celui qui est justifié est sauvé. Et je vais peut-être vous surprendre, Ananias et Saphira sont peut-être sauvés. Je n'en sais rien, le texte ne nous dit pas. Ils sont sur le même critère que nous. S'ils ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, s'ils se sont repentis de leurs péchés, quoi qu'ils fassent ensuite, par la suite, même s'ils ont chuté, ils sont les enfants de Dieu. Ils ne seront pas séparés de Dieu. Alors oui, ce qu'ils ont fait nous amène à penser que peut-être pas. Peut-être ils n'avaient pas compris ce qu'était la repentance. Nous voyons ça comme un avertissement pour notre vie. Est-ce que ce que nous faisons est en train de dire que si peut-être nous n'avons pas compris la repentance? Tout ce que je sais, en tout cas, c'est que Ananias et Saphira sont jugés sur le même critère que chacun d'entre nous. Et c'est cela où la justice de Dieu éclate devant le salut et non devant la mort terrestre. Alors, que garder de ce texte? J'aimerais vous laisser un défi et une promesse. Le défi, c'est d'adopter la même attitude que Dieu vis-à-vis du mensonge. Ne sous-estimons pas la gravité du péché. Rappelez-vous la palissade et les trous. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 10, Paul énumère toute une classe de personnes qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. On y retrouve un assortiment de gens coupables de vices sexuels, d'adorer des idoles, d'ébriété, de vol, mais aussi des menteurs. Les menteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, bien sûr, les menteurs, c'est ceux qui cultivent le mensonge dans leur vie. C'est pas ceux qui ont menti une fois dans leur vie. C'est pour ça que pour Ananias et Saphira, nous ne pouvons pas répondre. Oui, ils ont menti un jour dans leur vie, mais chacun d'entre nous aussi a menti un jour dans sa vie, même une fois sauvé. Donc, si Ananias et Saphira sont chrétiens, ils sont sauvés. Seconde piste. Levons les yeux et regardons les conséquences du mensonge. Le mensonge, c'est un peu l'effet papillon. Petite cause, grande conséquence. Oui, nous ne tombons pas tous raides morts après avoir menti, mais combien de mariages ont dégringolé à cause de mensonges? Combien d'hommes et de femmes ont vu leur carrière ruinée parce qu'ils ont menti à leur patron? Combien d'étudiants ont vu leur carrière ruinée parce qu'ils ont menti à un examen? Combien d'hommes passent à côté du salut de Dieu? Parce qu'ils se mentent en permanence, parce que leur conscience du péché, petit à petit, s'éteint. Le mensonge, c'est grave. C'est pour ça qu'on le trouve dans la liste de Paul. C'est très grave. Parce que le deuxième mensonge est toujours plus facile à faire que le premier. Et une fois que nous sommes sur cette piste, nous ne savons pas où nous allons nous arrêter. Ne pas voir la vérité sur nous-mêmes, ou mentir à nous-mêmes, voilà un des dangers les plus grands que nous pouvons vivre dans notre vie chrétienne, parce qu'une fois encore, c'est ce qui nous éloigne de Dieu, c'est ce qui nous empêche de voir Dieu comme notre Sauveur. Et finalement, que Dieu ait en horreur le mensonge, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Que le mensonge soit contraire à sa nature, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça c'est la promesse pour nous ce matin. On a déjà entendu plein de promesses depuis le début de ce culte. Avec Dieu, il n'y a pas d'un côté les promesses et de l'autre côté le programme. Le programme, c'est les promesses. Et la plus merveilleuse promesse que nous avons dans la Bible, c'est que Dieu s'est donné pour nous racheter de cette palissade remplie de trous. Il a donné son Fils, Dieu nous aime. Alors, faisons-lui confiance. C'est la plus belle promesse. Dieu, lui, n'est pas menteur. Et toutes les promesses que nous avons dites, un jour, il les accomplira. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Ce qu'il a commencé dans notre vie, il l'amènera à son terme. Et voilà pourquoi c'est important, la vérité. Parce que ça, c'est la nature de Dieu. Le mensonge, c'est pas que Dieu ne peut pas mentir, ça, c'est l'anti-Dieu. C'est contraire à sa vérité, à sa nature. Je vais prier.